Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, au micro Isabelle Dupuis. Cette semaine, Escale se penche sur la situation dans les banlieues de France avec Wydad Kitfi, journaliste au Bondy Blog. Créé en Seine-Saint-Denis pendant les émeutes qui ont embrasé les banlieues françaises en 2005, ce blog a pour vocation de faire entendre la voix des quartiers populaires de France. Wydad Kitfi, qui se définit comme un pur produit de la banlieue, était invitée à l'ONU pour participer à un symposium sur le discours d'incitation à la haine. Elle revient tout d'abord sur ce qui l'a motivée à faire le déplacement au siège.
Ce qui m'a encouragée à participer, c'est surtout que c'est vraiment les thématiques qui m'intéressent. Le discours de haine qui peut être très clair et assumé, entre guillemets, et puis celui qui peut être dilué dans un discours institutionnel, qu'il soit politique ou journalistique. Concernant l'image des musulmans en France, c'est une thématique concernant les journalistes extrêmement importante et je pense l'un des enjeux fondamentaux des prochaines semaines et des prochaines années. Parce qu'en fait, il y a un discours clairement islamophobe au sein des rédactions. Et le problème, c'est que si on le nie ou si on refuse d'aborder ce sujet ou si on fait semblant de ne pas l'avoir compris, on ne peut pas faire avancer les choses. Je ne dis pas que tous les médias français sont islamophobes, loin de là. Mais il y a un discours extrêmement violent à l'encontre des musulmans qui peut être tenu sur ces médias-là. Et le problème, c'est que l'ignorance de ce qu'est le fait d'être musulman, parce que ces rédactions sont majoritairement composées de personnes issues du même milieu, je pense que les journalistes ne se rendent pas sincèrement compte de ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont clairement réactionnaires, etc. Mais il y a ceux qui ne se rendent pas compte. Et celui qui est réactionnaire, il ne faut surtout pas laisser passer ses propos. C'est les propos sur les musulmans qui amènent la merde en France. Enfin, ça, c'est Philippe Tesson qui est journaliste. Les musulmans qui têtent l'antisémitisme dans le lait de leur mère. C'est quand même des propos extrêmement violents, stigmatisants à l'encontre des musulmans. J'ai aussi cité Mohamed Sifaoui qui dit sur le JT de France 2 « Moi, je trouve ça surprenant qu'on invite une femme voilée et c'est pas parce qu'elle a perdu son fils qu'il faut la sortir de ses fourneaux. » En parlant de Latifa Ibn Ziaten, la mère d'un soldat qui a été tué par Mohamed Merah. Ce genre de propos-là, tenus par des personnes qui incarnent l'information, puisque dans les trois cas, il s'agit de journalistes, ce genre de propos-là sont clairement islamophobes et ne devraient jamais être tenus dans un média. Parce que ça alimente le fait qu'on peut dire ce qu'on veut sur les musulmans, c'est pas grave, puisque des journalistes qui incarnent l'information, qui incarnent le sérieux, se permettent de le dire. Et il y a un autre aspect, qui est l'aspect vraiment de la méconnaissance, un peu naïve, qui n'est pas volontairement méchante, mais qui est un peu naïve. Typiquement, un journaliste qui fait un sujet sur la radicalisation et qui utilise des images de gens qui prient. C'est extrêmement choquant parce que prier n'est pas un acte radical. Prier, c'est un acte, tout simplement, que font la plupart des musulmans. C'est pas ça la radicalisation. Mais qu'est-ce que ça envoie comme message? Que celui qui va dans une mosquée est radical. Et l'impact qu'on a sur les gens, il est dévastateur. Et surtout aujourd'hui, avec l'état d'urgence et le choix du gouvernement d'aller très clairement cibler des musulmans dans leur maison, dans leur mosquée, dans leur restaurant, etc. Ça, plus les propos de journalistes, plus les propos clairement islamophobes, ça donne un condensé d'une ambiance assez compliquée.
Vous avez parlé de l'état d'urgence qui a été décrété en France suite aux attentats du 13 novembre, donc ces attentats qui ont été perpétrés par des Français, des djihadistes français. On parle énormément de tout ce phénomène de combattants terroristes étrangers. Qu'est-ce qui se passe de votre point de vue, particulièrement en France, qu'il y a un tel nombre de jeunes? Parce que là, ça dépasse le fait divers, ça dépasse quelqu'un d'un peu déboussolé. Qu'est-ce qui se passe?
Je pense que Daesh a très bien compris ce que le gouvernement français n'a pas compris. C'est-à-dire que le gouvernement français nie certains problèmes. Il y a certaines questions, surtout là avec l'état d'urgence, il y a certaines questions qu'on n'a visiblement pas le droit de poser. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut poser une question sur le profil, qu'il soit sociologique, psychiatrique ou peu importe, on nous dit « non, ça c'est la politique de l'excuse, c'est pas la peine ». Donc on nie des problèmes. Alors que là, le gouvernement devrait recevoir toutes les personnes représentantes de la société civile, qu'elles soient musulmanes ou pas, pour essayer de discuter, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Ça devrait être la mission numéro un. Parce que je pense que l'État islamique a compris toutes les failles française, toutes les failles sociologiques, identitaires, toutes ces failles-là. C'est incroyable en fait qu'eux les aient compris et que l'État français ne les ait pas comprises. C'est-à-dire qu'on a le climat qu'on peut appeler islamophobe qui existe en France et ce que commet l'État islamique se répondent en fait. C'est-à-dire que l'un influe sur l'autre. Aujourd'hui, je pense que ceux qui ont commandité ces actes se frottent les mains parce qu'ils savent très bien que la réponse qu'apporte l'État français est ce qui va leur apporter le plus de crédit, entre guillemets, auprès des jeunes qui seraient tentés. J'essaie de comprendre. Qu'est-ce qui peut pousser un jeune français qui est né en France, qui a grandi en France, à se faire exploser, donc à se tuer et à tuer des gens? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Comment est-ce que c'est possible? J'essaie de reprendre le problème à la base. Et c'est très facile aujourd'hui d'appuyer sur des points sensibles tels que l'identité sur ces jeunes-là. Parce qu'il faut se dire que quand on grandit en France, même si on compare au reste du monde, c'est quand même un pays où on a énormément de chance. Il ne faut pas nier cette chance qu'on a d'être en France. Maintenant, si on se compare au reste de nos voisins européens ou à l'Occident, il y a quand même des choses qui ne vont pas en France en termes d'identité. C'est-à-dire que moi, je grandis, je suis musulmane, je grandis avec l'idée que entre ma religion et mon appartenance au pays, bah, c'est pas compatible. Et je grandis avec cette idée, pas parce que mes parents me le disent ou parce que je suis paranoïaque, parce que c'est ce que me renvoie l'institution. Sans exagérer, de ma naissance à ma mort, c'est ce que me renvoie l'institution. C'est-à-dire que, voilà, je suis à l'école, j'ai pas les mêmes cours que les autres, j'ai pas les mêmes enseignants ou les mêmes chances que les autres à l'école. Si j'ai...
Qu'est-ce que vous entendez par là?
Eh ben, il n'y a pas d'égalité scolaire en France. Ça n'existe pas.
Vous voulez dire entre les différences entre les écoles Paris intramuros par
bien
rapport
sûr.
Aux qualités
oui.
d'enseignement en banlieue, c'est de
en
ça
banlieue,
que vous parlez.
En banlieue, bien sûr, en banlieue ou même dans les zones rurales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'égalité scolaire en France. Et si voilà, ma maman est voilée, si elle veut m'accompagner à une sortie scolaire, elle ne peut pas. Parce que c'est interdit. Je pense qu'un enfant en 2015, il ne sait pas s'il est musulman ou pas. Il est à l'école comme tout le monde. Sauf que quand il y a une sortie scolaire, eh ben, sa mère, à lui, elle ne peut pas venir. Je pense qu'il doit se demander pourquoi. Si sa mère est voilée, bien sûr. Bon, bah, il grandit avec ce sentiment quand même que, bah, lui, il n'est pas comme les autres. Je pense que ce sentiment-là, ce n'est pas un sentiment qui est paranoïaque. Les gens ne sont pas volontairement pas intégrés. C'est qu'il y a un sentiment de rejet qui existe en France parce qu'il y a quand même des lois qui existent en France qui limitent les droits en ce qui concerne les musulmans. Ça existe. Après, on peut ne pas en parler, on peut faire comme si ça n'existait pas, on peut faire comme si c'était normal. Quand même, il y a très peu de pays dans le monde qui légifèrent en termes de code vestimentaire. La France en fait partie, il y a l'Arabie Saoudite, l'Iran, enfin voilà, mais il y a très peu de pays dans le monde. L'identité française, c'est une question extrêmement importante et je pense qu'on ne l'aborde pas suffisamment et on ne l'aborde pas suffisamment sereinement. C'est toujours de l'ordre de la violence verbale ou alors vous voulez pas vous intégrer. Enfin, on n'arrive pas à parler sereinement de ce sujet et à dire voilà, mais je veux juste comprendre. Moi, je suis née en France, j'ai grandi en France, je me sens pleinement française. Jamais renié mon identité maintenant. Voilà ce que je ressens. C'est-à-dire que je me sens rejetée pour telle et telle et telle et telle question. Après, libre à l'institution de faire comme si ça n'existait pas ou de vraiment se poser les bonnes questions. Et ces questions, moi, je me les pose pour essayer de comprendre quels sont les arguments qui sont utilisés pour faire en sorte que ces jeunes partent et reviennent criminels. C'est-à-dire, comment on peut partir pour un chemin de mort? Parce que, quand même, on sait très bien que la Syrie, c'est pas la Californie ou, je sais pas, c'est pas Malibu. Donc, on part pour un chemin de mort, puis on revient et on emmène d'autres personnes avec nous. Donc, moi, j'aimerais vraiment qu'on essaye d'en discuter sereinement avec des gens qui maîtrisent le sujet mieux que moi, mais qui vont expliquer vraiment ce qui se passe dans la tête de ces jeunes pour trouver des vraies solutions, pas juste de la répression qui va ne faire qu'alimenter, en fait, l'idée qu'il y a le « eux » et il y a le « nous ». C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce sentiment-là qu'il y a « eux » et « nous ». Ce sentiment, il n'est pas juste perçu d'un côté. Je pense qu'il peut être vraiment existant pour des raisons qu'on connaît d'apartheid social, de violence policière, de problèmes identitaires, etc.
Mais ma France, à moi, elle vit, au moins elle ouvre, au moins elle rit, elle refuse de se soumettre à cette France qui voudrait qu'on bouge. Ma France, à moi, c'est pas la leur. Celle qui va d'extrême, celle qui bannit les jeunes, anti-rap sur la FM, celle qui se croit au Texas, celle qui a peur de nos bandes, celle qui vénère Sarko.
Et ce sentiment d'un clivage entre eux et nous, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu évoluer dans votre propre vie? Est-ce que c'est quelque chose qui était moins marqué à une époque et qui s'accroît?
Je pense que c'est un sentiment qui s'accroît parce qu'on grandit tout simplement et qu'on prend conscience des choses. Quand on grandit dans un endroit où on est contrôlé 10 fois dans la journée, parce que ça existe vraiment, qu'on a cette impression d'être humilié par l'institution et que le seul rapport en fait avec l'État français, c'est de la répression et c'est de l'humiliation. On ne peut pas être serein, en fait, dans son identité française. Et si on ajoute à ça la pauvreté, la précarité, le chômage, etc., plus les questions religieuses, je pense que c'est un condensé de problématiques où là, on se dit, notre avenir, il n'est pas dans ce pays, c'est pas possible, j'ai rien à faire ici, rien qui marche. De toute façon, personne ne me reconnaît en tant que tel.
Et de votre point de vue, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, c'est une vaste question, je sais, mais vous avez évoqué justement l'exemple des mères voilées qui ne peuvent pas accompagner leurs enfants. Est-ce que la position qu'a l'État français par rapport au port du voile est-elle trop? Est-ce qu'il faudrait plus de souplesse là, par exemple?
Là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, ce genre de thèse-là n'a pas du tout la cote. Au contraire, là, si je vous lis la dernière sortie de Marine Le Pen, c'est « si vous ne votez pas pour nous, toutes vos mères seront voilées ». On n'en est vraiment pas là. Et je pense, bien sûr, que cette position qu'a la France depuis des années sur le refus de comprendre que le port du voile n'est pas que le reflet de la soumission de la femme. En fait, le problème, c'est que c'est clairement idéologique. C'est que la France a cette position-là où le port du voile égale soumission de la femme. Faïza Zerwala, qui est du Bondi Blog, a écrit un livre sur ces femmes voilées. Chacune explique pourquoi elle est voilée et ça n'a absolument rien à voir avec la soumission de la femme. Souvent, ce sont des personnes dont leur propre mère n'est pas voilée. Ça émane en fait d'un choix strictement personnel, d'un choix religieux et d'une volonté vraiment dogmatique, on va dire, de pratiquer sa foi en fait comme on a envie de la pratiquer. Donc c'est pas de l'ordre de l'imposition par tel ou tel homme de sa famille. Donc on est au-delà de ça. Quand on arrive et qu'on dit à ces femmes-là, mais non, vous comprenez pas, c'est la soumission de la femme, donc on refuse la réflexion de ces femmes-là. C'est-à-dire qu'on leur dit, vous n'êtes pas capable de réfléchir. Donc comprenez ce qu'on est en train de vous dire. Mais non, en fait, nous sommes capables de réfléchir et nous sommes capables de faire des choix. Et c'est ce qu'elles essayent de dire. Elles disent, voilà, nous, on a un cerveau, on l'a utilisé, on a eu envie de se voiler, mais c'est pas incompatible avec la réflexion, c'est pas incompatible avec la nation française. On aimerait juste être des personnes normales. On avait fait une fois des états généraux de la femme à Bondy, parce que le magazine Elle fait ça tous les ans pour la journée de la femme, et ils le font à Sciences Po. Et cette année-là, ils se sont dit, peut-être que Sciences Po, c'est un public quand même particulier, ben, ce serait bien qu'on le fasse en banlieue. Et du coup, on l'a fait à Bondy, et c'était vraiment super parce qu'il y avait de tout. Il y avait une femme qui m'avait marquée parce qu'elle était voilée et elle disait, mais moi je comprends pas. Si j'ai envie de mettre une serpillière sur ma tête, ou peu importe, qu'est-ce que ça peut faire aux gens? Je gagne bien ma vie, je paye mes impôts, j'apporte ce que je peux à l'État français. Pourquoi on se focalise sur moi? Je ne comprends pas. Ça m'avait fait rire, son histoire de serpillière, mais ça m'avait marqué parce que je me disais, mais c'est vrai, en fait, ce sont des citoyens qui payent des impôts. Économiquement, ils font partie de la société française, mais idéologiquement, on n'en veut pas. Et je pense qu'il faudra, à un moment donné, que la France réfléchisse vraiment, vraiment sérieusement à toutes ces questions-là, parce que là, concrètement, ça a un impact négatif sur la société française.
Tu t'appelles Le Pen, n'oublie jamais que t'es le problème d'une jeunesse qui saigne. Viens, viens, allons éteindre la flamme. Ne sois pas de ces fous qui défendent le diable, Marine.
Et quelles seraient certaines des autres questions cruciales auxquelles il faudrait s'attaquer dans l'immédiat?
L'apartheid social dont parle Emmanuel Valls après Charlie Hebdo et dont il ne parle plus après le 13 novembre, c'est une vraie question. Le fait que nous n'ayons pas les mêmes droits, en fait. J'ai étudié en banlieue, j'ai grandi en banlieue, je suis un pur produit de la banlieue. À l'école, par exemple, moi, j'ai pas eu de prof de français pendant plus d'un an, j'ai jamais eu de prof d'espagnol de ma vie. Mais on grandit avec l'idée que c'est pas très grave, c'est normal que tout le monde subisse ça. Sauf que quand on arrive au niveau universitaire où on est un peu tous mélangés et qu'on se rend compte que non, finalement, on a vraiment pas mal de lacunes parce que on n'a pas eu tel prof, on n'a pas eu tel cours. Je n'ai jamais terminé un programme dans toute ma scolarité jusqu'au baccalauréat. Je pensais que toutes les classes de France ne terminaient jamais le programme. Non, les autres me disaient, mais bien sûr, nous on termine le programme. Et puis en plus, après, à la fin, on a le temps de jouer, de commencer le programme de l'année d'après. Je dis, mais c'est une blague.
Mais terminer le programme, c'est-à-dire que c'était à cause, par exemple, d'un absentéisme des professeurs,
absentéisme des professeurs ou des classes surchargées, des élèves en grande difficulté. Ce que demandent les profs dans ces zones-là, ils demandent des classes de 12 élèves. On n'aura jamais 12 élèves, ça coûte beaucoup trop cher. À moins qu'on prenne vraiment des mesures fortes et qu'on dise là maintenant, il faut arrêter les bêtises. Aujourd'hui, on en est à 24 élèves. Et dans des collèges identifiés comme en difficulté, on peut se retrouver dans des classes où sur les 24 élèves, il y en a 18 qui ne comprennent pas. Et donc 18 élèves qui ne comprennent pas, allez leur expliquer qu'il faut prendre le recul suffisant pour essayer de ne pas faire de bruit parce qu'il faut qu'on essaye d'avancer. 18 élèves qui ne comprennent pas, c'est 18 élèves qui vont papoter entre eux et qui vont tirer en fait tout le monde et puis personne ne comprend. Et puis à la fin, personne ne s'en sort. L'école, c'est pour moi le problème numéro un de la France. Ça devrait être le but numéro un d'un gouvernement, surtout un gouvernement socialiste. C'est-à-dire qu'on arrive, on dit non mais l'école, c'est ce qu'il y a de plus important. Normalement, n'importe quel enfant dans le monde, n'importe lequel, quand il comprend quelque chose à l'école, il adore l'école. C'est pas possible qu'un enfant dise je n'aime pas l'école. Je pense que c'est une question cruciale et si là on devait me dire qu'est-ce qu'il faut faire avancer aujourd'hui, c'est l'école.
Et c'est avec Ouidad Ketfi que se referme ce magazine Escale. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine.